les médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio-Télévision Suisse,
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone. Un retour presque normal en studio aujourd'hui, mais avec une partie de l'équipe toujours isolée. Je ne vais pas vous cacher la vérité, c'est compliqué en ce moment. Et je pense à celui et ceux qui ne sont pas là aujourd'hui avec beaucoup d'émotion. Mais on est là pour vous dans ce contexte sanitaire très particulier. Voici le sommaire de cette édition.
La librairie francophone, Emmanuel Queyrade.
Un sommaire très éclectique aujourd'hui avec le pâtissier Christophe Michalak. Reportage à distance entre ma cuisine et la sienne pour un moment de radio très spécial qui va toutefois vous donner des idées de desserts faciles et rapides, entre autres. La rentrée littéraire suite avec le nouveau roman d'Éric Reinhardt. Comédie française raconte l'enquête d'un jeune homme rêveur et sensuel qui s'intéresse à la création d'Internet. L'auteur raconte une vérité sur le sujet méconnue du grand public. La Québécoise Marie-Ève Lacasse pose quant à elle une réflexion sur l'exil. Installée en France depuis 17 ans, elle fait des allers-retours entre les deux pays et s'interroge sur la maternité, la langue, le féminisme et l'homosexualité. Un roman fort et engagé. Et puis notre séquence Livre de poche, vous entendrez aujourd'hui l'écrivain afghan Atik Rahimi. Voilà pour le sommaire. Vous retrouverez bien sûr nos libraires tout au long de cette émission, des libraires en liaison depuis leur librairie. Bonjour Dominique Bressou.
Bonjour Emmanuel.
Vous représentez la Suisse, libraire à Boudry, dans la librairie Une Petite Prose. Et on va commencer avec une anecdote de libraire, tiens. Ça commence avec vous. Allez-y Dominique, vous avez forcément une histoire à nous raconter, vous en avez plein.
Ah, les clients. Il y en a toutes sortes, comme vous vous doutez bien. De celui ou celle qui vous demande un rabais qui fait que vous payeriez pour lui vendre le livre si vous l'écoutiez, à celui qui vous donne envie d'acheter une hache, histoire d'abattre un arbre, en faire du papier et imprimer vous-même le livre qu'il a commandé et qu'il vous réclame matin, midi et soir. Et puis, il y a des vraies perles. Une dame m'envoie un mail se plaignant de ne pas avoir de nouvelles. Je lui réponds que son livre va lui être expédié tout soudain et elle écrit « Ce n'est pas pour le livre que je m'inquiète, mais je n'avais plus de nouvelles de vous. »
Ah, c'est joli. La fidélité hein, des clients avec les libraires. Bonjour Nathalie Clairin.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire en Belgique à la Hulpe, dans la librairie de la Mazrine. Tout va bien pour vous Nathalie?
Oui, très bien. C'est le printemps indien. Tout va bien.
Le printemps indien?
L'été indien.
Mais le printemps, ça marche aussi. Allez, au Canada, c'est le retour de Katia Courtois à Montréal, dans la librairie Le Port de Tête. Pour l'instant, les températures sont acceptables, mais ça va bientôt changer, Katia. Bonjour.
Oui, bonjour Emmanuel. Effectivement, c'est un peu plus clément en ce moment.
Enfin, bonjour Thomas Auxerre.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire en France dans la librairie Les Amandiers à Puteaux, à côté de La Défense. Une petite anecdote de libraire, vous aussi?
Oui, alors c'est une petite histoire en fait où notre patience a été mise à rude épreuve. C'était il y a quelques années, j'arrive un samedi matin assez tôt pour préparer l'ouverture et la surprise, impossible d'ouvrir la porte. La porte, pas du magasin devant, hein, celle où on arrive nous.
Ouais.
En fait, il y a un petit morceau de clé qui était resté bloqué la veille, on s'en était pas rendu compte. Alors je vous laisse imaginer, on appelle un serrurier pour qu'il vienne en urgence. Évidemment, c'était un matin où on avait deux auteurs qui devaient venir dédicacer.
Évidemment.
Voilà, donc on était tous devant la librairie, les clients arrivent en disant « Ah bah ça ouvre quand ?» tout ça. Bon, alors j'ai jamais trouvé le temps aussi long devant la librairie, franchement. On était tous un petit peu désespérés, sauf lui, le serrurier qui arrivait l'air radieux. Alors ça, c'était à cause de la facture qui allait arriver, mais ça, ça sera l'occasion d'un prochain coup de gueule.
Fidélité des clients chez vous aussi, hein, je crois.
Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, ils sont adorables.
C'est émouvant en ce moment parce que avec ce que vous avez vécu pendant le confinement, on s'est aperçu que tout l'été il y avait des clients, et c'est vrai que tous les libraires de la francophonie me l'ont dit. Hein, c'est valable en France, en Suisse, en Belgique, au Canada, partout.
Ouais.
Ils sont encore là à la rentrée.
Ils sont là, ils nous soutiennent, ils s'inquiètent, et ça, ça fait chaud au cœur.
Bon, merci à tous les quatre. Vous allez rester bien sûr avec nous tout au long de l'émission. Et bonjour Éric Reinhardt.
Bonjour.
Comédie française, c'est votre nouveau roman paru chez Gallimard. Un livre de rêveur et d'enquêteur. On se dit que l'un n'est pas compatible avec l'autre, et pourtant si. Vous êtes un rêveur vous-même, Éric?
Ah oui.
Oui, dit-il avec un air
un
mystérieux.
Rêveur, je suis resté un idéaliste, un chasseur d'épiphanie, de journées parfaites.
Des journées
grâce,
parfaites.
D'extase. Ouais. Oui, oui.
C'est compliqué
essayer,
là, en ce moment, les journées parfaites.
Alors, en effet, en ce moment, c'est vraiment très compliqué.
Ouais.
J'aime marcher dans la rue, écrire, avoir de l'inspiration et me connecter comme ça à mon époque, au monde sensible, au regard, aux conversations, faire des rencontres.
Et vous laisser aller, quoi.
Et me laisser
un petit peu.
Et Dimitri est un peu comme ça.
Alors voilà, Dimitri, c'est un jeune homme brillant, de 27 ans, au destin foudroyé. Il est sensuel, cet homme-là. Il est intelligent, il est perspicace, ouvert sur toutes les expériences. Mais c'est un rêveur qui a du mal à vivre le réel sans contrepartie. Il cherche des contreparties. Il se dit d'ailleurs, certains se droguent, d'autres se plongent dans le sexe. Il faut quelque chose, il lui faut une carotte, comme on dit.
Il est en effet mélancolique. Voilà, donc il essaie de trouver son chemin, comme ça, dans ce réel compliqué, contrariant, qui souvent, comme ça, dresse des obstacles sur notre route. La question qui se pose à nous tous, c'est comment parvenir quand même à être heureux. Donc on se débrouille tous, tant bien que mal et comme on le peut, pour trouver le bonheur, malgré voilà, les contraintes, malgré l'adversité, malgré le fait qu'il soit difficile, voilà, souvent de réaliser ses rêves. Et puis, mon personnage est aussi mélancolique. Il a une mélancolie en soi. Donc, voilà, il doit sans arrêt se débattre comme ça. Mais c'est quelqu'un qui aspire à la lumière. C'est pas le bonheur béat, c'est le bonheur gagné à la force de son esprit, de sa volonté.
Mais quand on est rêveur, Eric Reinhart, est-ce qu'on arrive vraiment au bonheur? Parce que tout ce qu'on fantasme comme ça, qui n'arrive pas, parce que quand on rêve, bon, il y a très peu de rêves qui sont exaucés, est-ce qu'on arrive au bonheur? Est-ce que c'est pas justement un handicap pour le bonheur d'être un rêveur?
Non. En tout cas, moi, par exemple, j'ai des moments comme ça, d'épiphanie, d'éblouissement, auxquels je suis très attaché, je les cherche. Et par ailleurs, mon rêve, c'est de devenir écrivain.
Donc ça, c'est
adolescence,
bon.
Ouais, mais ouais. Voilà, et donc de parvenir comme ça dans sa journée à écrire une page dont on est content, une page qui nous a donné beaucoup de mal, une page qu'on peut placer très haut, et quand on y arrive, c'est rare, mais Marie-Ève sans doute pourra
Marie-Ève Lacasse, ouais, qu'on retrouvera
aussi,
tout à l'heure. Ouais.
On peut parvenir comme ça à des moments d'intensité. Alors ils sont brefs en effet, parce que ça recommence le lendemain, on doit réattaquer une nouvelle page et tout ça. Mais voilà, ma vie elle est constituée comme ça d'une addition de moments comme ça gagnés, et notamment par l'écriture.
470 pages, Eric, hein, ce roman-là. Alors, ce sont des essais en fait.
470 pages, donc j'ai peut-être eu 15
oui, c'est
moments
ça, c'est ce que j'allais dire.
De grâce.
Donc il y a 15 pages qui sont correctes.
Et puis peut-être 38 000 moments de découragement,
bon,
de désespoir, de peine. Et de tracas.
Vous êtes dans quel état là aujourd'hui?
Là ça va.
Je vous sens un peu mélancolique, moi. Bon, il va courir après une fille, Dimitri, une fille qu'il semble voir partout, sans jamais pouvoir lui parler, la draguer. Il est obsédé par cette fille. Et puis il va aussi connaître des garçons, dont un homme plus âgé, qui va lui permettre, lui, de se glisser dans le petit monde des lobbyistes. Il va se prendre au jeu jusqu'à la mission de trop.
Ce que j'aime chez Dimitri, c'est que c'est un personnage éminemment paradoxal.
Oui.
C'est un homme de gauche, très à gauche, très idéaliste, rêveur, comme vous ne cessez de le rappeler,
ben
et vous
ça.
Avez raison.
Ouais.
Et en même temps, il se laisse entraîner dans un
jeu
dans
de lobby.
Entreprise parce qu'il se sent désiré par les personnes qui veulent le recruter, parce que ça l'amuse, parce que c'est valorisant. Et donc, il ne se rend pas compte qu'en effet, ce poste qu'il va occuper de jeune lobbyiste, apprenti lobbyiste, va à l'encontre d'absolument tous ses principes, ses idéaux et de son rapport politique au réel.
Donc il va quitter cette entreprise-là.
Et donc il va quitter à un moment cette entreprise sur un coup de tête. Du jour au lendemain, il s'en va, il donne même pas sa démission, il disparaît. Et puis l'argent qu'il a gagné, il va le donner à Emmaüs parce qu'il considère, rétrospectivement, c'est de l'argent qu'il n'aurait pas jamais
il ne mérite
gagné
pas.
Parce que
bah oui. Voilà. Bon, on va tout raconter, hein. Un jour, il découvre que la France a préféré se lancer dans l'aventure du Minitel. Il reste dans le monde des lobbies, comme ça il va enquêter parce qu'il va se faire embaucher par une agence de presse, et la France préfère donc à une époque se lancer dans l'aventure du Minitel à la place d'Internet, alors que les Français, grâce à l'inventeur du datagramme, étaient à la pointe dans les années 70, Eric Reinhart.
Oui,
c'est vrai ça.
Ah, ça c'est vrai. Louis Pouzin,
oui.
Il a 90 ans aujourd'hui, je l'ai rencontré, a inventé au milieu des années 70 le datagramme, qui est la technologie sur laquelle repose Internet. C'était élaboré dans le cadre du plan calcul, créé par le général de Gaulle en 1966. Les pouvoirs publics, en 1974, ont écarté cette invention du datagramme. Et non seulement ils ont écarté, en l'occurrence Giscard.
Voilà, le président.
Ils ont fermé le plan calcul.
Giscard d'Estaing, voilà, avec un lobby, là encore, avec Ambroise Roux, qui a tout fait, lui, pour qu'on passe au Minitel au lieu de faire de l'Internet, parce qu'il y avait des enjeux financiers pour lui. Il vendait du matériel qui permettait de mettre le Minitel en route.
En effet, il vendait le Minitel. Mais aussi, il y avait une concurrence entre l'establishment des télécoms et le milieu de l'informatique. Et donc, Ambroise Roux était parti en guerre contre le patron de Thomson. Et tout ce qui pouvait nuire à Thomson, eh bien, il y allait carrément. Et donc, comme Thomson, c'était l'informatique et Ambroise Roux, c'était plutôt les télécoms, en fait, il est parvenu à convaincre Valéry Giscard d'Estaing de, en effet, fermer le plan calcul, s'aborder le consortium informatique européen Unidata qui aurait pu devenir l'Airbus de l'informatique. Pour des raisons comme ça, de stratégie industrielle un peu basique, à la con, de contrer son concurrent principal, son adversaire.
La France a raté le coche.
La France a raté le coche. Voilà.
Donc
des
Internet.
Répercussions comme ça, funestes, qui, voilà,
à cause des lobbies. Alors, Internet est d'origine européenne, vous dites. Française et suisse, d'ailleurs. Et pas du tout américaine, même si les Américains...
En effet, le récit officiel, c'est que Bob Kahn et Vint Cerf ont créé Internet.
Aux États-Unis.
Et la seule, enfin, et la géniale invention des seuls Américains. Ouais. Ça, c'est le récit officiel.
Parce qu'ils avaient des travaux en cours sur le sujet, au même moment. Mais ça ne marchait pas.
Mais ça ne marchait pas. Et en effet, une fois que la France a abandonné le datagramme, les Américains s'en sont emparés. Ils ont rusé, puisqu'ils ont refusé de mettre au point une norme internationale. Ils ont dit, non, on est trop en avance. Ils ont pris le datagramme, ils l'ont modifié juste ce qu'il fallait pour pouvoir lui donner leur nom, TCP/IP, et ils ont lancé Internet, parce qu'ils avaient compris, avant tout le monde, que les réseaux de transmission de données étaient le champ de bataille de l'avenir.
Bien, les libraires ont lu votre roman, Eric Reinhardt, les trois libraires, le Canada, la France et la Suisse. Vous préférez qui, Eric, pour débuter? Il boit une gorgée d'eau, Eric. France, Canada ou Suisse?
Canada.
Canada, allons-y.
Alors, j'ai trouvé que c'était un roman tellement foisonnant, dense et souple à la fois, un style qui oblige le lecteur à lâcher prise quand même. Et j'ai pris plaisir à me laisser porter par votre rythme nuancé, vos digressions et votre histoire qui balance entre le politique, le social et le romanesque. C'est vaste, j'ai beaucoup aimé.
Bien, Thomas Auxerre, pour la France, êtes-vous d'accord?
Alors, pas tout à fait, non. Moi, je vais pas y aller par quatre chemins.
Allez-y.
J'ai une lecture assez mitigée sur votre livre. Alors, même si j'ai bien aimé l'histoire globalement, et puis surtout la double évocation années 70 et monde contemporain, et que j'ai trouvé ça, bien écrit, je crois qu'il y a quelque chose dans la personnalité du héros, le Dimitri, là, qui me l'a vraiment rendu assez antipathique. Alors vraiment, il m'a agacé. Hein. Entre ses idéaux que j'ai trouvé un petit peu flous, son rapport étonnant avec les femmes, la séduction, ça a un petit peu nuit à ma lecture. Manuel. Bon, après, moi, je dis ça, hein, mais c'est vrai que j'ai de très nombreux lecteurs qui vous achètent. Et puis,
vous achètent.
Oui, voilà.
Ils aiment.
Ouais. Oui, eux, ils aiment. Ouais. Donc, voilà.
Bon, d'accord. Je suis pas vraiment d'accord avec vous, mais peu importe, on s'en fiche. La Suisse, Dominique Bressoux, c'est à vous, tranché.
Oui, moi, je suis assez d'accord avec Thomas, en fait, parce que ce livre m'a perturbée. Et puisqu'il s'annonce comme l'histoire d'un homme qui serait un parfait mélange de romantisme échevelé et de manque de loyauté à qui ou quoi que ce soit, ça sert quand même parfois de prétexte à des exposés sur des sujets aussi différents que le lobbyisme ou les débuts d'Internet. Alors, si c'est parfois fort long, sont très intéressants, j'avoue que je me suis un tout petit peu perdue au fil des pages et j'ai regretté aussi le mélange des problématiques qui finit par noyer un peu le poisson.
Ouais, alors c'est vrai qu'il y a plein de choses. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pages parce que, comme le disait Eric, pour avoir une page sublime, il faut en écrire 100.
Ah, j'ai pas dit ça.
C'est ça, quasiment. Mais c'est vrai qu'il y a plein de choses dans ce livre, Eric Reinhardt. Il y a une citation de Max Ernst, par exemple, qui va marquer Dimitri. Max Ernst qui disait « Je suis né avec le sentiment très fort d'avoir besoin de liberté. » Ce qui veut dire aussi un sentiment très fort de révolte. Si vous avez ce sentiment violent, ce besoin de révolte, ce besoin de liberté, et que vous êtes né dans une période où les événements vous incitent à vous révolter, ou à refuser ce qui se passe dans le monde et à en être dégoûté, il est tout à fait naturel que le travail que vous produisiez soit révolutionnaire.
J'adore cette phrase, oui, en effet.
Mais c'est tout, Dimitri, ça. C'est tout ce qu'il aimerait être, en fait.
Oui, c'est tout ce qu'il aimerait être, en effet. Donc,
et vous abordez plein de sujets.
On est révolté à sa mesure. Il ne va pas non plus mettre des bombes devant les portes des multinationales. Mais il fait ce qu'il a à faire, et en s'attaquant à cette question-là. Il a le sentiment, en effet, de rendre justice, notamment à Louis Pouzin, cet inventeur
des datagrammes
spolié. En effet, c'est risqué, c'est un livre un peu casse-cou.
Oui.
J'aime voilà, les travails de forme avec les contrastes de tessiture, les mises en tension entre différents registres. En effet, j'essaie d'hybrider le documentaire avec la fiction, mais pas en essayant de mélanger la matière documentaire au bain de la fiction en gommant toutes les différences.
Mais je vais vous dire, Eric,
un romancier plus classique.
Mais je vais vous dire, vous êtes comme Philippe Djian, en fait, parce que vous êtes dans le style, dans la forme qui est très importante pour vous, mais vous, ce que vous voulez, c'est raconter des histoires et porter des réflexions sur la vie, parce que ça vous habite. Je vous connais un peu, Eric Reynard. Et du coup, il y a plein de réflexions sur la vie qui sont très intéressantes. On s'arrête à ça, ce que disait d'ailleurs le libraire. C'est qu'à un moment, vous dites, par exemple, que au détour d'une histoire comme ça, vous notez que parfois on est remarqué par les autres dans la rue, mais pas par une seule personne, par plein de personnes, comme si on était magnétique.
Ça, c'est
comme
une vérité,
si on attirait.
Irrécusable.
Ouais, voilà. Il y a des moments où on est solaire.
Ça sert à ça la littérature aussi, c'est d'énoncer des vérités. On a tous senti ça.
Oui, alors ça, vous le faites sur 2-3 pages, et après vous passez à autre chose. Et tout ça, bon an, mal an, jusqu'à 460 pages, avec une enquête sur l'histoire de la création d'Internet, c'est vrai qu'on peut s'y perdre.
Non, parce que le livre, il est très structuré, il est très construit. Il y a vraiment ce travail sur la forme et cette articulation comme ça entre fiction avec Dimitri qu'on suit. Et en effet, on a toutes ces pensées. Cette forme peut dérouter, en effet, ça arrive. Ceux qui aiment ce travail-là, en fait, en effet, on éprouve du plaisir.
Oui, c'est vrai.
Y a, pour moi, quand j'écris, le fait de passer, par exemple, d'un registre à un autre me procure des sensations assez fortes, et c'est ça que j'essaie de transmettre à mes lecteurs. Voilà. Bon,
un passionné, Eric Reynard. On va terminer avec une réflexion. Il y a plein de choses comme ça que j'ai relevées qui sont vraiment très jolies. Il y a le père de Dimitri qui va perdre le sens de la vie. Il le dit, parfois on perd le sens de la vie. Alors il va changer de vie sans renier ses proches. Il prend une autre direction et il dira, il faut sans cesse se réajuster dans la vie. Il faut se déplacer, trouver d'autres enjeux. Merci Eric Reynard.
Merci à vous.
Merci beaucoup. Merci. Comédie française est parue chez Gallimard. Un livre qui fait débat dans notre équipe, mais un livre qui réussit comme ça, par la force des mots, à transmettre beaucoup de choses. Merci à
beaucoup.
Vous restez avec nous à suivre le pâtissier Christophe Michalak depuis Ma Cuisine pour un reportage immobile inédit. On n'a jamais fait ça. Avant cela, voici le tout nouveau titre de Jane Birkin dans la librairie francophone.
Elle se fabrique des histoires et jouait. Elle jouait toutes deux aux jeux interdits. Elles enterraient tout. La pantoupe pour les croix serties d'épines. Couronne d'églantine. Cruelle se cavaler sur la colline. J'ai
C'était Jane Birkin dans la librairie francophone avec son tout nouveau titre produit par Étienne Dao, Les Jeux Interdits.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio Canada.
Radio Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
La semaine dernière, j'étais confiné, vous l'avez entendu, et le pâtissier Christophe Michalak a imaginé, lui, des recettes de gâteaux pendant son propre confinement, il y a quelques semaines. Alors, on a eu une idée. Parler de son livre « Depuis ma cuisine », une sorte de reportage à distance après le voyage immobile. Voici le reportage immobile. Et bonjour Christophe Michalak.
Bonjour Emmanuel.
Vous avez publié Recettes d'un pâtissier confiné, 50 recettes faciles à réaliser en famille aux éditions Hachette. Il y a des desserts bien sûr, mais aussi quelques entrées et plats. Et dans sa cuisine, on a toujours ce qu'il faut pour bricoler quelque chose. Vous dites que c'est la cuisine du placard ça.
Ben oui, c'est la base, c'est-à-dire qu'on ouvre le placard, surtout lorsqu'on était confiné. Et avec ce qu'il y a dans le placard, avec ce qu'il y a dans le frigo et avec ce qui traîne, eh bien, c'est un peu un exercice docile, hein. C'est comme muscler son cerveau, on se dit, tiens, qu'est-ce que je peux faire avec tout ça le plus rapidement possible.
Voilà, on va parler de quelques recettes. Là, je suis dans ma cuisine, vous entendez, hop là, je fais tomber un couvercle. Pour faire une focaccia, par exemple, Christophe Michalak, ce pain italien, un pain plat, il faut juste de la farine, du sel et de la levure, en fait, et un peu d'eau, et c'est réglé.
Oui, et un peu d'huile d'olive, bien évidemment, par la suite. Après, j'aime bien mettre un peu de graines d'anis ou de l'assaisonner différemment. Voilà, le seul truc compliqué, c'est de trouver de la levure. Donc, on a toujours des boulangers sympathiques en bas de chez soi. Il suffit juste de dealer un peu de levure fraîche. Et puis voilà, vous la stockez au congélateur. Et un petit truc que je voulais vous dire, c'est que dans mon laboratoire, bon, je suis toujours à 200 à l'heure. Et c'est très difficile de travailler les pâtes levées. Parce qu'il faut prendre du temps. Lorsque j'étais coincé à la maison, confiné comme tout le monde, eh bien, je n'avais que ça à faire. Bon, j'en ai profité pour remettre les mains à la pâte et j'adore travailler la pâte en elle-même, les pâtes levées, je trouve ça fabuleux.
Ouais, c'est le cas de le dire, mettre la main à la pâte. C'est exactement ce que vous avez fait. C'est exactement ce qu'on va faire ensemble. Pour faire une salade, on peut piocher ce que l'on a dans le frigo. Alors là, j'ai une grosse tomate cœur de bœuf, Christophe. Je vais ouvrir le frigo avec... attendez, je crois que j'ai autre chose. Oui, c'est ça. J'ai une grosse tomate avec de la coriandre.
La tomate, elle est pas au frigo, j'espère.
Oui, si...
règle numéro 1, sachez-le et que tout le monde le sache, on met jamais les tomates au frigo parce qu'en fait ça anesthésie totalement le goût et même si vous le laissez revenir à température, il y a une enzyme particulière dans la tomate qui fait que dès que ça passe par le froid, ça perd tout le goût de la tomate. Voilà. Donc,
ah d'accord,
vous le savez.
Donc une tomate, de la coriandre, de la mozzarella, des pistaches aussi, je peux mélanger tout ça en fait, le tout c'est de bien l'assaisonner.
Mais oui, alors l'assaisonnement de base, le truc le plus simple du monde, c'est toujours, lorsque vous faites une vinaigrette, moi, ma petite astuce, c'est que je mets une petite cuillère de moutarde, donc moutarde, huile d'olive, un peu de vinaigre, sel, poivre, voilà, vous mélangez bien au fouet, et je mets un peu d'eau aussi pour la détendre, voilà, la roquette, vous l'assaisonnez directement avec cet assaisonnement, idem pour la tomate que vous avez coupée en gros morceaux, c'est beaucoup plus généreux. Voilà, vous mélangez tout ça et puis on mettra la mozzarella en tout dernier. Et ce que je fais aussi pour la pistache, pour la rendre un peu plus rock'n'roll, je la mets dans une poêle. Je mets une poignée de pistache dans une poêle chaude. Je saupoudre légèrement de sucre, plutôt du sucre glace qui va fondre très très vite. Je mets une pincée de sel. Je mets même un peu de poivre et je remue tout ça sur le feu. Et en fait, ça va caraméliser très très vite. Je fais refroidir ensuite mes pistaches. Une fois qu'elles sont froides, elles sont légèrement caramélisées et craquantes. Voilà. Et je saupoudre ma salade avec ces pistaches. Mais là, franchement, succès assuré.
Très bonne recette, très facile, Christophe Michalak. Dans votre livre, vous dites que l'assaisonnement, c'est la liberté. C'est ça qui peut tout changer, en bien comme en mal d'ailleurs. Moi, je poivre beaucoup, par exemple. Est-ce une erreur, docteur Michalak ?
Non, il n'y a pas d'erreur. Je pense qu'on fait la cuisine que l'on aime. Puis surtout, il faut, je pense, éduquer les enfants le plus tôt possible avec des bonnes choses, avec des bonnes matières premières, respecter les saisons. Oui, moi, j'en parle tout le temps, mais j'ai mangé des raviolis en boîte et de la purée déshydratée jusqu'à l'âge de 18 ans. Donc,
ah oui.
Je suis parti de très loin pour finalement arriver où j'en suis. Un palais, c'est comme une culture. Hein. Il faut ça s'éduque. C'est que du bonheur en général. On fait la cuisine ou un gâteau pour les gens qu'on aime. C'est un acte d'amour.
Alors vous êtes un grand pâtissier, Christophe Michalak, plusieurs fois couronné meilleur pâtissier. Que faut-il dans son frigo et son garde-manger pour faire un dessert, Christophe? Là, je suis donc dans ma cuisine, avec des éléments de base, je vais dire. Qu'est-ce que vous me conseillez? Qu'est-ce qu'il faudrait que j'aie là?
Alors, on a toujours dans le frigo, on a toujours du beurre et des œufs.
Oui.
Du lait, toujours. Si on a un peu de crème, c'est pas plus mal. Et c'est les fondamentaux, en fait, et les bases, et l'ADN de la pâtisserie française. Si, en plus, on a un peu de sucre et un peu de farine, franchement, avec ces cinq ingrédients, eh bien, on peut tout composer, on peut tout faire. Alors là, il faut aussi une balance, parce qu'il faut quand même être un peu plus précis, mais on peut tout faire. On peut faire un flan sans pâte. Moi, c'est ce que j'aime très souvent faire à la maison. C'est tout simplement comme une base de crêpe pâtissière. Je le verse dans un moule et puis je le cuis. Là, on peut faire un riz au lait. Si on a du riz et du lait et un peu de sucre, ouais, et trois ingrédients, on peut bidouiller. En fait, on peut quasiment tout faire. Il suffit d'être un peu malin et d'avoir un peu d'imagination. Et,
oui, c'est ça.
Et c'est du bonheur.
Oui, c'est ça, l'imagination. Parce qu'effectivement, le riz au lait, j'ai tout ce qu'il faut là pour en faire. Il faut juste rajouter quelque chose qui va faire la différence. Et ça, c'est le rôle des grands pâtissiers.
Oui, non, mais pas, bien sûr, mais en fait, moi, j'ai une école que j'ai créée en 2013, hein, en plein cœur de Paris, et quand je donne des cours, en fait, j'essaie toujours de trouver les astuces pour prendre le maximum de raccourcis et rendre, en fait, la création d'un gâteau ultra simple et facile. Un riz au lait, vous savez, c'est pas très compliqué. Un riz au lait, c'est du riz, du lait, un peu de sucre, le tout dans une casserole, et il faut touiller à peu près 45 à 50 minutes.
Ouais.
Il n'y a pas de complications. Donc, bien évidemment, moi, c'est mon métier, je passe ma vie là-dedans, et j'adore trouver des astuces, mais il y a plein de choses comme ça qu'on peut faire et on peut rigoler.
Alors, j'ai fermé le frigo, Christophe, parce qu'il est resté ouvert. Hein. Entretien à distance, entretien reportage immobile. Hein. On n'avait jamais fait ça pour l'instant. Et dans le frigo, d'ailleurs, je vois, attendez, parce que je vois quelque chose qui va vous intéresser. C'est le melon, Christophe Michalak. Il y a la recette de la tarte au melon, framboise et menthe. C'est encore tout juste la saison, il faut se dépêcher. C'est simple à faire, mais il faut du sucre muscovado. Qu'est-ce que c'est le sucre muscovado, Christophe Michalak?
Alors, c'est un sucre issu de l'île de la Réunion, qui est un terrain volcanique, et c'est un sucre noir, en fait, qui est peu raffiné, issu du sucre de canne, et qui a un goût, donc qui est très très noir, qui est un peu gras, qui ressemble un peu à la vergeoise brune, et qui a un goût un peu réglissé. Mais si on ne l'a pas, on peut prendre de la cassonade, et ça marche tout simple. Hein. Moi, je suis le roi des tartes minute express. Il suffit d'avoir une bonne pâte feuilletée achetée chez son bon boulanger pâtissier ou éventuellement dans un bon commerce bio, une pâte feuilletée toute prête. Vous mettez un peu de cassonade sur la feuille de papier, vous mettez votre disque de pâte feuilletée, vous faites une petite bordure, faites ce que vous voulez, et puis après, ben, on s'éclate.
Un framboisier incroyable avec un praliné pistache, et vous proposez aussi de faire sa pâte à tartiner maison, Christophe. C'est super simple et plus sain que le fameux qu'on connaît tous.
Beaucoup plus sain. C'est que de la noisette, du chocolat au lait et un peu de sucre. Donc c'est pas violent, c'est 10 fois moins sucré. Du moment que vous en mangez pas 3 pots par jour, ça reste très bon. Si vous pratiquez un peu de sport, voilà, tout va très bien.
Bon, on peut mettre cette pâte d'ailleurs sur les gaufres bruxelloises et liégeoises dont vous donnez aussi la recette. Merci beaucoup, Christophe Michalak. Je vais ranger la tomate, mais pas du tout au frigo.
Le melon non plus, il faut pas le mettre au frigo.
Ah oui, mais si, c'est frais, moi j'aime bien. Bon, si vous aimez la pâtisserie, vous allez adorer ce livre. C'est chez Hachette. Christophe Michalak, recette d'un pâtissier confiné. Et tous les droits iront à une organisation de soutien aux soignants, Christophe.
Tout ce que je vais gagner via ce livre, je reverse tout pour le corps médical, parce que c'est grâce à eux qu'ils ont sauvé des vies. Ils étaient vraiment dans le charbon total toute la journée. Et je leur dois énormément, et on leur doit tous énormément. Et voilà, c'est l'acte avec mon épouse que on se sentait vraiment très concerné. Et c'était, voilà, il fallait qu'on fasse quelque chose pour ces gens-là. Voilà, donc c'est pas grand-chose, mais en tout cas, voilà, j'espère qu'on va récolter quand même un peu de sous et leur reverser pour améliorer leur quotidien et pour leur rendre ce qu'ils nous ont donné.
Merci beaucoup, Christophe Michalak. Voilà, je vais quitter ma cuisine.
Merci beaucoup, Emmanuel. C'était fort, fort sympathique.
Merci. Je vais quitter ma cuisine pour aller en studio et recevoir la Québécoise Marie-Ève Lacasse. À bientôt, Christophe. Merci.
À très vite. Au revoir.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et avant Marie-Ève Lacasse, la chronique des libraires avec les coups de gueule et les coups de cœur. Comme chaque semaine, on commence avec un coup de gueule en Belgique. Nathalie Clairin.
Moi, je voudrais parler des livres de cuisine qui donnent beaucoup de sensations, sauf l'envie de manger. Ça existe, il y en a dont on se passerait vraiment bien. D'abord, il y en a dont les photos nous aveuglent, mais qui sont au final chères pour des recettes qui ne cassent rien. Et puis, il y a ceux dont les photos relèvent plus d'un catalogue d'horreur, oui, oui, avec du gras qui brille, des os fracturés. C'est le cas du livre « Mes 160 recettes instant peau » qui aurait vraiment bien fait de faire un petit effort de présentation. Bref, soyons critiques avant de les emporter à la cuisine.
En plus, c'est nommé, hein, voilà. Pas de chance pour « Mes 160 recettes instant peau ». POT. Merci Nathalie. En Suisse, un coup de cœur, Dominique Bressot.
Oui, alors un très gros coup de cœur pour un livre qui s'appelle « Dehors » de Thierry Rabou, avec des photos de William Gamuto à l'édition Favre. Alors moi, j'avais juré d'éviter, comme la peste ou toute autre maladie d'ailleurs, ce qui rappellerait l'épisode de confinement des derniers mois. Mais là, il s'agit d'autre chose que des commentaires oiseux sur cette période. Il s'agit de poésie pour nous aider à mettre des mots sur des impressions, jeter un regard sur la beauté du vide. Ce sont des poèmes magnifiques en regard de photos non moins magnifiques en noir et blanc pour se dire qu'il y a un après et un dehors dont on n'avait pas forcément senti la sombre beauté jusqu'à présent.
Dehors aux éditions Favre. Merci beaucoup Dominique. Le coup de cœur de Katia Courteau au Canada.
Oui, alors un beau coup de cœur pour le titre « École pour filles » d'Ariane Lessard, publié aux éditions La Mèche. Cette école, en fait, pour filles, est un pensionnat en plein cœur d'une forêt. L'autrice nous plonge dans une atmosphère presque glauque et mystique à la fois. La parole est donnée aux filles et aux femmes dans ce roman, un peu fragmenté, je dois dire, et montre la violence qui se loge parfois au cœur même des relations féminines. C'est une très, très belle découverte.
École pour filles aux éditions La Mèche. Merci Katia. On termine avec un coup de gueule en France. Thomas Auxerre, je sens qu'il va être saignant, Thomas.
Oui, un coup de gueule contre le Covid en général.
Ah oui, oui.
Ça c'est comme tout le monde, hein, oui, vous me direz, Emmanuel. Mais alors je précise ma pensée, parce que je fais un coup de gueule contre le Covid qui nous empêche quand même d'organiser des rencontres avec des auteurs, des débats qui permettent d'habitude à de nombreuses personnes de se retrouver lors d'une soirée, d'échanger autour d'un verre, parce que c'est ça aussi hein, la librairie, et surtout la librairie indépendante.
Ouais.
C'est un lieu de vie, c'est un lieu de partage, et même si les clients sont revenus très très fort vers nous, ils nous soutiennent et ça fait chaud au cœur, bah moi ça me manque ces animations. Donc un coup de gueule contre le Covid.
Voilà. Bah ouais. Mais là on peut rien y faire hein, pour vous.
Ouais.
Désolé. Bon, il faut que ça s'arrange, effectivement. Merci Thomas. On part dans le rayon des livres de poche à présent, avec Atik Raimi, dont le livre Les Porteurs d'eau vient tout juste de sortir en poche chez Folio. Voici un extrait de notre entretien avec lui. Atik Raimi est dans la librairie pour son roman Les Porteurs d'eau, paru chez POL. Deux hommes en souffrance, deux récits en parallèle. L'un en Afghanistan, l'autre en Europe, entre Paris et Amsterdam. Des symboles, de la poésie, c'est un conte persan francophone, Atik Raimi, ce livre.
Je crois que oui.
Il y a toutes les composantes du conte persan.
Oui, écoutez, je viens d'une culture dans laquelle le conte l'emporte sur le roman,
oui. La
poésie sur la théorie. Donc,
et le langage aussi.
Je viens de la culture persanophone, donc dans laquelle on ne pense qu'avec de la poésie.
Mmh. Et avec des détours. Vous l'aviez dit d'ailleurs dans cette émission déjà, et vous l'expliquez dans ce livre à un moment, que votre langue natale n'exprime pas les choses de la même façon que le français. On passe par des chemins détournés.
Absolument. On essaie toujours de cacher les choses au lieu de les dire. Le langage est pour nous plutôt pour cacher que pour analyser. Et révélé, bien sûr.
Alors, votre récit se déroule le 11 mars 2001, date à laquelle les talibans détruisent les deux bouddhas de Bamiyan en Afghanistan, 5 mois avant l'assassinat du commandant Massoud et des attentats du 11 septembre aux États-Unis. Là aussi, le symbole de la destruction de ces bouddhas est très fort. Ça a été le début de beaucoup de choses, ça.
Absolument. D'autant plus que les talibans ont détruit les deux bouddhas le 8 mars, c'est-à-dire la journée internationale des femmes.
Oui, exact. Ouais.
Mais ensuite, ils ont annoncé le 11.
Voilà.
Bien sûr, on peut dire que c'est un hasard de calendrier, ou peu importe, mais ce qui était quelque chose, à mon sens, un message aux autres musulmans, intégristes.
Oui, c'est voilà. Ça. Alors, il y a plein de messages, du coup, dans votre roman à Atik Raimi, parce qu'il y a une double déambulation. À Kaboul, il y a Youssef, qui est un porteur d'eau, qui alimente en eau les maisons de son quartier. En banlieue parisienne, il y a Tom, franco-afghan, qui quitte son épouse et sa petite-fille pour aller rejoindre Nouria, à Amsterdam. Pourtant, c'est grâce à sa première femme qu'il a réussi son exil, qu'il a pu construire sa vie. Mais il quitte tout.
De la même manière, quand il était en Afghanistan, il est né là-bas. Il quitte sa famille, sa terre natale, pour venir en France.
Oui. Mais là, il n'avait pas le choix, peut-être. C'était moins injuste.
Oui, mais là, Bon, ça arrive, vous voyez, dans la vie de toutes les personnes. Et puis,
à de quoi de quitter sa femme et son enfant.
De quitter son enfant et d'aller. C'est l'amour. Vous voyez, c'est ce que je dis. L'amour en soi est un exil pour lequel on est prêt à quitter tout.
Et c'est parfois une trahison.
Aussi, bien sûr. Sinon.
Sinon quoi?
Ça serait pas l'amour, hein, c'est toujours.
Ça serait pas intéressant, c'est ça?
Bah oui, bah écoutez, je crois que l'amour, l'amour passion, l'amour sentiment était toujours comme ça, vous voyez. C'est toujours l'interdit, c'est la transgression. Mes deux personnages transgressent d'une certaine manière les codes sociaux.
Ouais, c'est ça. Alors faut-il exprimer ses sentiments et ses doutes ou faut-il les dissimuler? Quel est votre avis, vous?
Moi, en tant que romancier, et quelqu'un qui a vécu plus en France, dans une autre culture, bien sûr, pour moi, le roman, l'écriture, c'est pour révéler
c'est pour dire.
Sa propre vérité.
Et en tant qu'Afghan?
En tant qu'Afghan, je dissimule pas mal de choses.
Ouais, vous faites ce qui vous arrange, en fait. Et le roman d'Atik Raimi, Les Porteurs d'eau, est paru en poche chez Folio. Dans un instant, Marie-Ève Lacasse est un roman très fort et très engagé. Ce sera après le nouveau titre de David Walters dans la librairie francophone.
C'est comme ça, toi et moi, c'est comme ça.
C'était le tout nouveau titre de David Walters avec Magnier.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
Le gel hydroalcoolique est sur la table, tout va bien. Bonjour Marie-Ève Lacasse.
Bonjour.
Il a failli tomber. Autobiographie de l'étranger, paru chez Flammarion. Vous parlez de votre exil du Canada vers la France et vous dites ne plus savoir ce que veut dire se sentir chez soi.
Oui, c'est un projet sur le fait de se sentir à la fois étranger, mais aussi mal à l'aise, de manière plus globale. Parce que quand j'ai commencé ce livre, j'étais une grande timide. Mmh. J'étais quelqu'un qui rougissait beaucoup, qui bafouillait énormément. Je me sentais mal à l'aise en permanence. Et en discutant de ce sentiment auprès de plusieurs personnes, pas que mes amis, mais de manière un peu plus globale, j'ai réalisé que c'était le lot de beaucoup de gens. C'était pas quelque chose qui était lié au fait de venir du Canada, donc de l'étranger, et donc d'essayer de m'adapter depuis 17 ans à ce pays, mais c'était un sentiment qui était beaucoup plus universel que cela.
Alors votre refuge, du coup, c'est la langue et l'écriture. Mais cette langue, là aussi, elle est différente entre le Canada et la France, vous le racontez. Votre fille rit aux éclats quand elle vous entend prononcer des expressions québécoises.
Oui, ce qui est un peu vexant quand même. Hein. Mais c'est vrai que mon arrivée en France a été compliquée parce que j'avais cet accent québécois. J'étais en faculté de littérature en Sorbonne, qui n'est pas non plus l'endroit le plus ouvert en termes... Ouais. Donc, bon, en effet, on se moquait beaucoup de mon accent.
Et vous aviez voulu le perdre ?
Alors, en fait, déjà...
L'intonation québécoise plutôt que l'accent, d'ailleurs.
Déjà, le fait de dire perdre un accent, pour moi, c'est très étrange. Mmh. En fait, j'en ai plutôt pris un autre.
Mais c'est ça.
Puisqu'au au Québec, on dit toujours les Français... parle le français de France.
Ou l'accent international.
L'accent international. Donc, par souci de, je pense, désir de s'intégrer, mais aussi par désir d'amour, en fait. J'ai voulu gommer cet accent pour en prendre un autre.
Mais vous pourriez répondre avec votre langue d'origine ?
Plus maintenant, pour différentes raisons. Déjà parce que, pour moi, c'est la langue de l'intimité absolue. Et ce que je dis dans ce livre, c'est que, quand je parle cette langue, c'est comme si je mettais des chaussons dans un cadre un peu familier, mais ces chaussons, je les montre pas à tout le monde, ils sont un peu fatigués, un peu, voilà. Et donc, c'est quelque chose que je peux éventuellement faire devant ma fille, qui trouve ça très rigolo, apparemment, mais pas au micro de France Inter.
Non, de France Inter, de la RTS, de Radio-Canada et de la RTBF.
Absolument.
Non. Et devant moi, non ? Même si je fais le petit garçon ?
Peut-être bien, on verra.
Quelle est l'expression québécoise qui vous plaît le plus, vous ? Parce que vous avez une liste dans le livre, c'est pour ça que je pose la question.
Il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est garrocher. Donc garrocher, ça veut dire lancer très violemment. Ouais. Et dans ce mot, il y a toute la violence, même phonétiquement on l'entend, la violence du geste qu'on n'entend pas dans le mot lancer ou jeter.
Bon, vous soulignez aussi la bêtise des Français dans ce domaine, qui sont capables, dites-vous, de pouffer de rire dans, je cite, les moments les plus dramatiques des films de Xavier Dolan.
Je crois que les Français ne se rendent pas toujours compte du racisme postcolonial qui peut subsister dans un éclat de rire lorsque un Québécois parle de manière tout à fait détendue et en toute confiance d'avoir un Français ne s'imaginant pas que l'autre puisse se moquer de son accent. Donc oui, c'est quelque chose qui est assez violent.
En même temps, vous êtes très sévère avec le Canada aussi, Marie-Ève Lacasse, un pays où se développe, dites-vous, la haine de la terre.
Cette critique acide du Canada vient de mon exaspération des Français qui fantasment complètement le Canada comme étant une terre d'accueil merveilleuse, où en gros ce serait la France qui aurait réussi. Alors je les calme deux minutes, quand même le Canada est un pays traversé par des contradictions quand même très très fortes, à commencer par sa détestation profonde de la terre. Donc les politiques environnementales, et je mets des guillemets, qui sont encouragées depuis plusieurs années, ne vont pas du tout dans le sens de la conservation des sols ou de l'eau ou de l'air. Au contraire, tout est fait pour détruire le paysage. Et les seules communautés qui protègent pour l'instant le territoire canadien, ce sont les communautés autochtones qui se battent tant bien que mal pour préserver ce qui reste de forêts ou de cours d'eau. Mais évidemment, ce sont des débats très âpres et c'est une violence politique de tous les jours.
Bien, on va laisser la place à nos libraires, à Marie-Ève Lacasse, avec la Belgique, le Canada et la Suisse. Et on va commencer tout de suite par la Belgique. Nathalie Clairin.
Oui, Emmanuel. Alors déjà, j'ai adoré le thème choisi. Donc identité et sentiment d'étrangeté au monde, ça me parle beaucoup. La difficulté d'aimer la différence des autres, ça me parle beaucoup aussi. Alors aussi, je vous dirais, Marie-Ève Lacasse, merci de vous livrer comme vous l'avez fait. En plus, je peux carrément dire que j'ai pu m'identifier beaucoup à votre personnage, et c'est le cas aussi de ma collègue canadienne qui, pour le comble, s'appelle Marie-Ève. J'ai beaucoup aimé également vos références littéraires, Lacan, Conrad, et votre langage, il est fluide, il est précis, parfait. Bref, un livre que je ne suis vraiment pas prête d'oublier.
Bien, ça commence bien.
Merci.
Pour vous. Elle est soulagée, toute rouge, Marie-Ève Lacasse. Le Canada, tiens, on va aller au Canada, hein, Marie-Ève, avec Katia Courteau, êtes-vous d'accord?
Ah, absolument. Mais vraiment, je dois dire, d'emblée, là, je vais vous le dire, je suis totalement tombée en amour avec ce livre. avec cette écriture toute en finesse. Et puis même, je vais me permettre, et je vais lui dire à elle, Madame Marie-Ève Lacasse, je pense que je suis totalement tombée en amour avec vous. Je vais tout lire de vous. Ce roman est porté par une richesse de réflexion et une honnêteté sublime à la limite du redoutable. C'est d'une grande, grande élégance littéraire et d'esprit. J'ai été touchée, mais profondément.
Dis donc, je les ai rarement vus comme ça.
C'est à la fois très gênant et très flatteur. Merci beaucoup. je suis très embarrassée, à vrai dire, mais merci.
La Suisse, Dominique Bressoux. Allez, vous allez compenser tout ça avec un commentaire très négatif.
Ah non, pas du tout. Non. Moi, j'en rajoute une couche, en fait. En fait, Marie-Ève Lacasse, vous réussissez à montrer que l'exil peut ne pas être seulement un changement de pays ou d'habitude, mais qu'il cristallise parfois un exil à soi-même ou une partie de soi-même. Et qui plus est, les lecteurs vont comprendre que lorsqu'on part s'installer à l'étranger, il n'y a souvent pas de retour possible et qu'on peut rester un étranger à jamais, partout, tout en étant en paix avec soi-même. Moi, j'ai trouvé que c'était une écriture magnifique, recherchée, où chaque mot tombe juste. Alors bravo Marie-Ève Lacasse, parce que ce livre passionnera ceux qui sont partis, ceux qui partent et même ceux qui restent.
Voilà, autobiographie de l'étranger de Marie-Ève Lacasse chez Flammarion. Vous êtes admirée par les libraires et vous admirez des femmes fortes, dont certaines dont vous suivez le travail depuis très longtemps, dont une que j'adore aussi, qu'on aime tous ici forcément, et ce titre, écoutez. Sur cette musique de Kate Bush que vous citez dans votre livre parmi les femmes artistes dont vous suivez le travail depuis longtemps. Cette chanson pourrait être la BO de votre livre, Marie-Ève Lacasse. Be Winding Up, venir à bout de quelque chose, hein, ça veut dire ça. Et vous parlez d'une mythologie de figures féminines auxquelles vous raccrochez, vous identifiez. Pourquoi Kate Bush, par exemple?
Eh bien, Kate Bush, dans les moments les plus difficiles de ma vie, j'ai l'impression, et c'est assez peut-être prétentieux ou étrange, mais j'ai l'impression qu'elle me parle. Et donc, il m'est arrivé, dans des moments très sombres, de danser nue sur Kate Bush dans mon couloir, devant ma bibliothèque, en
carrément.
Essayant de... Oui, ça me fait du bien.
Ouais, oui.
Et voilà, ensuite, je vais beaucoup mieux. Donc, Kate Bush, je ne sais pas, elle exorcise... quelque chose d'étrange, là, c'est une sorcière pour moi.
Bon, vous n'êtes pas loin de ça parfois, Marie-Ève, hein, si je peux permettre, parce que votre livre, c'est aussi un roman très fort sur l'identité, votre identité sexuelle notamment. Vous vous racontez et vous dites avoir eu du mal avec la relation homme-femme, car vous ressentez en vous, en tout cas le personnage dit ça, hein, un comportement d'homme dans le corps d'une femme. Ce qui vous a incité à, pas à des dérives, mais en tout cas à des expériences particulières.
C'est-à-dire que j'ai longtemps eu l'impression que l'hétérosexualité n'était pas un choix, alors que on dit souvent que les homosexuels ont une forme de courage de vivre leur homosexualité et de faire le coming out. Mais je me suis dit, est-ce que les hétéros font un coming out hétérosexuel? Est-ce que c'est pas finalement juste épouser une convention? Et oui, en effet, la narratrice a une histoire d'amour avec une femme qui dure plusieurs années et qui se termine. Est-ce que c'est vous avez dit expérience? Est-ce que c'est une expérience? Non, c'est une rencontre, hein, comme à.
Je parle pas de celle-là, moi. Il y en a d'autres.
Éclairez-moi.
Bah dans un salon de massage, par exemple.
Ah oui. Ah, mais ça.
Vous êtes prostituée un petit peu dans un salon de massage, vous?
Alors, il m'est arrivé, en effet, par désir de connaissance des choses du monde, d'exercer différents types de métiers, dont celui de. Si on peut dire prostituée, est-ce que c'est vraiment de la prostitution?
Bah,
oui, parce que j'avais envie de remettre en cause le fait que ce soit le métier le plus dédaigné, ou en tout cas celui qui faisait éventuellement le plus peur. Et c'est vrai que en l'ayant exercé pendant une très petite période de ma vie, j'ai pu me rendre compte que d'autres métiers que j'ai pu exercer, par exemple faire des sondages téléphoniques à la chaîne, ou même travailler comme babysitter dans des conditions très difficiles, étaient finalement des boulots plus durs, hein, que celui de la prostitution. Après,
ah bon,
oui, ce n'est pas tout à fait mon sujet, mais c'est vrai que c'était une manière aussi d'amoindrir l'idée du corps de la femme comme un temple intouchable. Non, dans l'expérience de la prostitution, il y avait pour moi beaucoup de liberté à prendre.
En tout cas, ça vous énerve. Hein. Le personnage est en révolte du rôle que doivent jouer les femmes envers les hommes. Il y a un passage très évocateur. On va le lire. Eric Reinhardt, vous êtes tenté pour le lire, Eric?
Bah oui,
il va découvrir en même temps le texte.
Je le découvre.
Allons-y.
J'espère, Marie-Ève, que je vais bien le...
Eric Reinhardt lit Marie-Ève Lacasse.
Au début, il y a des hommes. Pour leur plaire, j'ai accepté de me comporter comme ceci et comme cela, de me couper les cheveux ou de les laisser pousser, de porter des robes ou des pantalons, des cols ronds ou des chemises. Il fallait sautiller comme ci et m'épiler comme ça, branler comme ci ou me cambrer comme ça. J'étais toujours pas assez ou trop. Mais si je refusais de me soumettre à ce cirque, la contrepartie était cruelle. C'était difficile de me cerner, car ma personnalité et mon apparence changeaient au gré de mes amoureux.
Comment vous êtes-vous affranchie de ce cirque, comme vous dites, Marie-Ève ?
Ah, eh bien, il y a eu déjà la rupture radicale avec l'hétérosexualité qui a duré quelques années, et donc cette rupture radicale avec...
la rupture radicale avec l'hétérosexualité. C'est pas mal, c'est original.
Oui, donc... Pour le dire autrement, j'ai une histoire homosexuelle pendant plusieurs années. Cette histoire s'est terminée et aujourd'hui j'ai jeté mon dévolu sur un garçon qui n'est pas patriarcal. Donc c'est pas mal.
Ah d'accord, vous êtes revenu à l'hétérosexualité.
Mais, oui, mais moi de toute façon j'ai jamais dit, enfin ces étiquettes homosexualité, oui, se positionner, hétérosexualité, ouais.
Ça vous gêne
infâme,
ça.
Hein.
Ouais, c'est ça qui vous pose problème. Cette
identité est changeante, on ressemble même pas à la même chose du matin au soir. Je veux dire l'identité est quelque chose de très très mouvant. D'ailleurs la preuve, j'étais canadienne, je suis française, j'ai changé d'accent, j'ai fait 10 000 métiers. Voilà, on change en permanence. Et donc la sexualité est un laboratoire extraordinaire d'expérimentation bien sûr. Et voilà, aujourd'hui, c'est la solution, en tout cas l'intermédiaire. Je me suis dit, ah, ça existe en réalité des hommes qui ne sont pas patriarcaux, quelle merveille. Voilà.
Plein de sujets, en tout cas, y compris la maternité aussi, parce que le personnage a une fille. Nous en parlerons ensemble dans une autre émission, puisqu'on vous retrouvera dans la version télé de la librairie francophone pour la première émission de la troisième saison, fin septembre et début octobre, sur RTS2, RTBF La 3, ici RTV de Radio-Canada et sur TV5 Monde. On reviendra donc sur ce livre, Autobiographie de l'étranger, paru aux éditions Flammarion, et vous serez aussi avec Jean-Marie-Gustave Leclésio en exclusivité. Merci beaucoup, Marie-Ève Lacasse.
Merci à vous.
À très vite. Avant de conclure, le son de la francophonie avec l'une des musiques les plus écoutées quelque part dans un pays membre de l'OIF. Voici les Mamans du Congo avec un des titres les plus écoutés en ce moment en RDC. C'était les mamans du Congo avec Boom dans le top 3 en RDC. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation Stéphane Combe avec Florent Layani. À la rédaction Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère et Estelle Gap en France. Jean-Marie Félix en Suisse. René Mikils et Valérie Ilput en Belgique. Jacqueline Castonguet et Elsa Pépin au Canada. À la semaine prochaine, je l'espère, avec toute l'équipe au complet, en bonne santé surtout. Bon week-end, bonne semaine à tous. Et bien sûr, faites attention à vous.